Demander de vous tourner dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Nous avons vu la semaine dernière ce verset à mémoriser, bien connu, mais tellement important, dans le dernier verset du chapitre 40, verset 31. « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Aujourd'hui, on va voir dans ce chapitre 41 que le prophète Ésaïe va encourager Israël. On vous rappelle qu'il leur a dit qu'ils vont être emmenés en déportation, qu'ils vont être pris par les Babyloniens, ce qui allait arriver quelques années après ces prophéties, qui seraient, d'après le prophète Jérémie, en captivité pendant 70 ans. Et là, on a l'impression que le prophète Ésaïe, encore une fois, se place dans le futur, qu'il est déjà avec les Israélites qui reviennent, qui seront à même de revenir en Israël, à Jérusalem. Et il veut leur montrer qu'ils peuvent lui faire confiance. Le Seigneur veut vous montrer, vous le savez, que vous pouvez lui faire confiance. C'est le grand prédicateur Spurgeon qui a dit « Un Dieu en qui on ne pourrait pas placer sa confiance ne serait pas un Dieu qu'on peut adorer. » Est-ce que vous adorez Dieu ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous lui faites confiance ? Souvent, c'est pas la même réponse. Il va leur montrer qu'ils peuvent lui faire confiance parce qu'il est plus fort que toutes les nations païennes qui entourent Israël. Il va leur montrer qu'il les protège, qu'il est un vrai Dieu. Et il va les réconforter en leur montrant qu'il connaît le futur. On va lire ensemble à partir du verset 1, on va commencer. Il, faites silence pour m'écouter. Vous sonnez le silence au début ? On se demande qu'est-ce qui se passe. Là, c'est comme l'entrée du juge qui arrive. Que les peuples renouvellent leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent, comparaissons ensemble pour le jugement. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assujetti des rois. Son épée les réduit en poussière et son arc en un chaume qui s'éparpille. Il les poursuit, il passe sans être atteint, ses pieds ne touchent pas le sol. Qui a fait exécuter ces choses ? C'est celui qui convoque les générations dès le commencement. Moi l'Éternel qui suis le premier et qui serai encore avec les derniers. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondateur, celui qui polie au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure « Elle est bonne !» et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Il. C'est un terme que vous avez peut-être déjà remarqué dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les îles ou les côtes, les zones côtières. En fait, c'est un terme qui veut simplement dire des pays lointains. Pour Israël, les îles, c'était loin, c'était pas un peuple de marins. Et donc, ça veut simplement dire toutes les nations païennes qui sont au loin, taisez-vous et écoutez, c'est Dieu qui parle. Il manie l'ironie. On vient de lire dans le verset 31 du précédent chapitre, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Et là, il suggère au peuple païen que les peuples renouvellent leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Allons comparaissons ensemble pour le jugement. C'est Dieu qui invite les nations païennes à venir devant un tribunal pour voir qui a raison. Les peuples ne peuvent pas renouveler leur force. Vous ne pouvez pas renouveler vos forces si vous n'espérez pas en l'Éternel, si vous ne le connaissez pas, si vous ne croyez pas à lui, si vous ne vous attendez pas à lui. Vous pouvez prendre toutes les vitamines, vous pouvez prendre tous les plans de relance que vous pouvez imaginer, vous n'allez pas renouveler leurs forces, vos forces, pardon. Et là, il parle de sa puissance à commander l'histoire. Il dit « Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite ?» Apparemment, le prophète Ésaïe voit un justicier qui arrive dans le futur, à qui Dieu livre des nations, assujettit des rois. C'est un homme qui va avoir une grande puissance, qui a une épée qui réduit les ennemis, les autres nations païennes en poussière, et leur arc ne tient pas le coup, et lui, il poursuit ses nations, il passe sans être atteint, ses pieds ne touchent pas le sol, ça veut dire qu'il va très vite. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui convoque les générations dès le commencement. L'histoire n'est pas aléatoire. On a souvent l'impression, quand on voit les événements, surtout quand on a le nez sur le guidon en regardant les nouvelles de France Info tous les quarts d'heure, que c'est un peu n'importe quoi qui se passe dans le monde. Qu'il suffit qu'il y ait telle catastrophe ici, tel événement, telle éruption volcanique, tel attentat ici, pour que l'histoire prenne des zigzags et on ne sait pas du tout où on va. En fait, c'est complètement faux. Dieu est en charge de l'histoire. Dieu a un plan. Et c'est parce qu'on est trop près du détail qu'on ne voit pas ce plan. Mais la parole nous dit que Dieu a créé le monde, l'homme s'est séparé de Dieu, l'a rejeté. Dieu, par amour, est venu parler aux hommes par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et il va revenir, il a été crucifié, il a payé pour nos péchés, il va revenir. Et donc, en fait, l'histoire, elle est toute tracée. Est-ce que vous y croyez, à cette histoire telle que la Bible a décrit? Sinon, je vous souhaite bon courage. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, vous étiez hier déguisé en style des années 80, on m'a dit. Il y en a qui sont peut-être encore un peu 80-tiches, non? Non. Il y avait le bloc communiste. Waouh! Ça faisait 70 ans qu'ils s'étaient imposés et on les voyait parader tous les 1er mai sur la place rouge. Et on se disait, ça ne va jamais changer, il va toujours avoir affaire avec ces... Quelques années plus tard, 70 ans plus tard, pof, ils sont tombés sans coup férir. Il n'y a même pas eu de bataille. C'est quelque chose comme l'ange de l'Éternel qui tue 185 000 soldats d'un seul coup. Du jour au lendemain, le mur est tombé. Et c'est la déliquescence de l'ancien monde communiste. Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle de l'histoire. Aujourd'hui, tout le monde a peur de l'islam. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, on se dit ils vont finir par diriger tout. On aime les musulmans. On veut leur annoncer la bonne nouvelle. Et on n'a pas peur de l'islam. L'islam n'est qu'une théorie humaine. Dieu, on va le voir dans ce passage, il met au défi tous ces ismes, ces philosophies, l'existentialisme, etc. Au défi de montrer qu'ils connaissent quelque chose à la vie. Et la façon dont Dieu prouve qu'il connaît quelque chose à la vie, c'est qu'il annonce des prophéties, des choses à l'avance. Et ça, aucune autre religion dans le monde ne le fait. Peut-être que tous les jours dans votre journal, vous voyez l'horoscope. Ça en dit long sur l'état de déliquescence intellectuelle de notre pays. Qu'il faut faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, parce qu'il y a telle planète qui est entrée dans telle zone du ciel. Ça, c'est de la fantaisie pure et simple. Alors certains disent, oui, mais on n'a rien trouvé mieux pour décrire les caractères que les horoscopes. Moi, je suis Verseau et toi, tu dois être Balance parce que la façon dont tu es toujours indécise. Alors il est vrai qu'il peut y avoir des fois des vérités, et Satan va utiliser les horoscopes, Satan va utiliser ces choses pour vous faire croire que c'est la vérité. Donc par moments ça va tomber juste, et vous allez vous dire « Waouh !» Mais tout ça, ce sont des fadaises. Les gens bien, bien éduqués, qui ne sont plus dans l'obscurantisme religieux, sont les mêmes qui font que dans chaque journal de France, il y a l'horoscope. Rappelez-vous ça. Les peuples sont rien devant Dieu. Et là, il annonce la venue de cet homme qui va réduire les ennemis d'Israël, les nations païennes, à zéro, et qui va être utilisé, qui va être comme un sauveur pour Israël. Alors, qui est-ce ? Est-ce que c'est Sarkozy ? Non, en fait, c'est Obama. Non, je plaisante, vous le savez bien. Deux grandes théories s'affrontent. Certains pensent que c'est Abraham qui lui aussi est venu et qui a, dans le passé, même pour Esaïe, qui était allé dans un endroit où personne n'était allé encore. Mais la plupart des commentateurs s'accordent à penser que c'est plutôt le roi perse Cyrus. Ce roi va être nommé par précisément. Le mot Cyrus sera là dans Ésaïe 44, 28 et Ésaïe 45, 1. Ce qui est remarquable, c'est que le nom de Cyrus était inscrit par Ésaïe dans ses textes une centaine d'années avant que ce roi ne naisse. Et le prophète Daniel nous parle de ce roi, Esdras nous parle de ce roi, les chroniques nous parlent de ce roi. Et en fait, lorsqu'on lui a montré que son nom figurait dans le livre des Israélites, des Juifs, il a été complètement bouleversé. Si on vous montrait un livre qui a été écrit il y a 100 ans, dans lequel il soit question d'Aude Royer, Aude serait impressionné. Moi aussi. Si c'était mon nom, ou William, ou Olga, ou Paul, ou Eileen. Il a été très impressionné et en fait il a permis à Israël, aux Juifs, de retourner dans leur pays et de reconstruire la ville, de reconstruire éventuellement le temple. Et il note la réaction des peuples païens devant cette menace, cette roi perse qui a pu réunir une grande force en réunissant les Mèdes et les Perses. On parle de l'empire médo-persique, les guerres médo-persiques. Et ils ont tout détruit, ils ont balayé le pouvoir de Babylone, qui avait pris le pouvoir de l'Assyrie. Là encore, on voit une fois que ceux qui nous paraissent comme des montagnes de puissance, en quelques décennies, en quelques centaines d'années peut-être, elles sont réduites à néant. Et ces peuplades, les Babyloniens, les ennemis d'Israël, les habitants des extrémités de la terre, ont peur devant la puissance de Dieu conféré à cet homme, à ce justicier. Et leur façon de résister à cette peur, c'est de se tourner vers des idoles. Vous avez remarqué, on va le voir, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, que Ésaïe se moque des idoles. Alors nous nous disons, mais les idoles, c'était à l'époque où les gens faisaient des statuettes pour les vénérer. Nous, on est au-dessus de ça. Nous, d'accord, on regarde l'horoscope pour s'amuser, mais c'est basé sur la science et sur l'astrologie. Mais en fait, il aime montrer la stupidité des idoles ou des gens qui s'abaissent devant ces idoles. Et là, il dit qu'en fait, ils se mettent à plusieurs pour construire, fabriquer des idoles. Il y en a un qui va fondre plutôt la statue en métal, puis un autre qui va polir avec un marteau en donnant des petits coups, il y en a un autre qui va frapper sur l'enclume, ils vont vérifier que la soudure est bonne, ils vont fixer l'idole pour qu'elle ne tombe pas avec des clous. Si vous avez besoin de soutenir votre Dieu, il y a un problème. C'est l'inverse qui doit se passer. C'est Dieu qui doit vous soutenir. Quand vous avez à soutenir un Dieu, c'est que ce Dieu-là n'est pas un vrai Dieu. Alors oui, c'est vrai, on ne va pas construire des idoles, mais il y a des choses qui prennent la première place dans notre vie. La Bible explique que ça, ce sont des idoles. Ça peut être la poursuite de l'argent, la poursuite du plaisir, la poursuite de l'instruction. Tant que je n'aurai pas ce doctorat, je ne serai rien. Mais une fois que je l'aurai, ce sera le bonheur. Et après, on affiche le diplôme sur le mur. Et puis, il y a une autre façon dont on fait des idoles. Et ça, vous allez le voir, beaucoup de gens vous disent « Oh, le Dieu de la Bible, il est trop sévère, il est trop sanguinaire. Moi, je vois Dieu comme quelqu'un de bon, qui pardonne. » La Bible dit qu'il pardonne, non ? C'est cette histoire de péché, de jugement, d'enfer, j'y crois pas. Les gens se refont un Dieu à leur désir. C'est un peu comme s'ils prennent un marteau et le Dieu qui demande des comptes, ah, on va faire sauter cette partie-là. Et en fait, les gens se fabriquent des idoles. Et vous verrez, quand vous parlez aux gens, ils ont tous, même s'ils disent qu'ils sont athées, ils ont tous quelque chose qui leur sert de Dieu, quelque chose qu'ils ont fabriqué à leur image ou à l'image qu'ils voudraient représenter. Dieu contrôle l'histoire. Face aux nations païennes, il va faire venir un autre peuple et le roi Cyrus qui va libérer Israël. Mais toi, verset 8, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas, sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours. » Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. Oracle de l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, voici que je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la menue paille. Tu les vanneras, le vent les emportera et un tourbillon les dispersera, mais toi tu te réjouiras en l'Éternel. Tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les malheureuses et les pauvres cherchent de l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la steppe le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils reconnaissent, qu'ils observent et comprennent ensemble que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël les a créées. Dieu veut assurer Israël de sa puissance et de sa bienveillance et de son aide. Vous connaissez sans doute le verset 10, « Sois sans crainte car je suis avec toi ». Il est dit que dans la Bible, il y a plus de 365 fois où il est dit N'aie pas peur, sois sans crainte, ne crains rien. On l'a chanté tout à l'heure, ne crains rien, je suis avec toi. Quand il y aura des inondations, tu ne seras pas noyé. Quand il y aura des incendies, tu ne seras pas brûlé, car je suis avec toi. C'est vrai pour nous, pour l'Église, pour chacun de nous, nous n'avons pas à avoir peur. Quand on réfléchit à nos actes, à nos motivations, je suis personnellement surpris de voir combien la peur peut être un facteur important. Est-ce que je fais les choses parce qu'elles sont bien ? Est-ce que je fais les choses parce qu'elles vont bénir ? Ou est-ce que je fais certaines choses parce que j'ai peur que si je ne les fais pas, des choses mauvaises vont m'arriver ? On ne va pas m'aimer, on ne va pas ceci, on ne va pas cela. La peur est une mauvaise motivation. J'aime bien prendre l'exemple des impôts. Est-ce qu'il y en a qui, une fois qu'ils ont calculé leurs impôts ou qu'ils reçoivent leur avis d'impôt, disent « Je vais faire un petit cadeau au ministère des Finances. Un petit cadeau pour Bercy. Je vais donner 5 ou 10% de plus. » Non, en général, on essaye de donner le strict nécessaire. On aurait plutôt tendance à donner moins que plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut surtout pas se faire attraper, avoir un redressement. Mais la motivation n'y est pas. Si par contre, vous êtes animé par une autre motivation, la motivation de l'amour, alors là, vous allez donner sans compter. Peut-être en comptant, mais en comptant moins précisément. Mes enfants, oui, ça va, Sébastien n'est pas là, donc il ne va pas dire que ce n'est pas vrai. Si Sébastien me demande un peu d'argent, je vais pas, et qu'il me dit j'ai besoin de 5,40 €, je vais plutôt avoir tendance à lui donner 10 € que 5 € et 2 pièces de 20 centimes. Pourquoi ? Parce que c'est une autre motivation. Et nous avons tendance à avoir peur. Souvent des peurs imaginaires. Ce qui est remarquable dans ce verset 10, c'est que c'est un ordre. Sois sans crainte. Alors peut-être vous dites, oui, mais il y a des fois, ça ne se commande pas. Bon, bah, peut-être il y a des fois où on doit se reprendre et obéir et dire, non, je n'ai pas de raison de craindre, car Dieu me dit qu'il est avec moi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Vous voyez tous les « je » du Seigneur ? Je. Là, on est dans le chapitre 41, si vous renversez les chiffres. Chapitre 14, Ésaïe. On a une autre série de « je ». C'est les « je » du roi de Tyr, plutôt le roi de Babylone, qui est une image de Satan. Tu disais en ton cœur... Chapitre 14, verset 13 d'Ésaïe, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, je. Vous voyez la différence ? Il y a les jeux égoïstes de l'ennemi, de notre chair, je veux ci, je veux ça, et puis il y a les jeux, les promesses de Dieu qui fait du bien aux hommes et aux autres. Je suis avec toi, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Ça, c'est la différence entre Dieu et les faux dieux et Satan. Toi, Israël, mon serviteur, c'est un terme qui va revenir beaucoup dans cette deuxième partie d'Ésaïe, jusqu'au verset du chapitre 66. Le serviteur, c'est... On va voir qu'il y a plusieurs serviteurs. Il y a Israël, le peuple juif. Il y a aussi le Messie qui va être le serviteur. Et puis même Cyrus est appelé un serviteur dans le sens où il est celui qui va permettre à Israël de revenir dans sa terre promise. Il y a un faux enseignement dans l'Église qui dit que l'Église a pris la place d'Israël. « c'est un enseignement totalement aberrant, erroné. Dieu, s'il ne bénit pas Israël comme il avait promis de le faire dans l'Ancien Testament, nous avons des raisons de mettre en doute sa parole et de craindre que les promesses qu'il nous fait, il ne les tiendra pas aussi. Il est question dans toute la parole d'un reste. Alors tout le monde ne sera pas sauvé en Israël, comme tous les païens ne seront pas sauvés. Mais Dieu, ses décrets sont immuables, irrévocables. Il va bénir Israël et ça remonte à très loin, ça remonte dans le sens que dès le départ, dans la Genèse, Abraham avait reçu cette promesse, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » C'est encore les jeux du Seigneur. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Deviens donc une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a choisi Israël. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et qu'il choisit qui il veut. Il aurait pu choisir les Corses, il aurait pu choisir les Bretons. Il a choisi Abraham et à travers lui ses descendants. Pas parce qu'ils étaient spéciaux, qu'ils avaient des talents que seuls eux avaient, mais parce qu'il est souverain. Le problème, c'est que les oracles, la révélation divine qu'ils ont reçue, ils étaient censés la partager avec les gens qui habitaient autour de chez eux, avec les nations païennes. Leur problème, c'est qu'au lieu d'obéir à cet ordre de Dieu et de montrer aux païens le vrai Dieu, ils en ont fait un sujet d'orgueil national. Ce que certains chrétiens font, de se croire spéciaux parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Le choix de Dieu, c'est une question délicate des fois, on peut s'y perdre, on peut y perdre son latin et sa santé psychologique. Comment est-ce que Dieu peut choisir certains et puis condamner les autres? C'est pas juste ça. En fait, ça participe de... On comprend mieux, on s'approche d'une compréhension plus grande lorsqu'on sait que Dieu a une connaissance des choses avant qu'elles ne soient. Sa vision du futur, on a dit que Dieu, en fait, il est en dehors du temps, il voit le présent, le futur, le passé, le présent, le futur, comme si c'était tout en même temps. Et donc, il sait que ceux qui vont le rejeter, ceux qui vont l'accepter, et notre réaction, c'est de dire, mais c'est pas juste, moi je le connais pas encore, et je suis pas choisi, et il va me condamner. Vous pouvez leur dire, non. Tu peux choisir Dieu. Et si tu le choisis, c'est la preuve qu'il t'avait déjà choisi. Je vous ai tous un peu perdu là. Non. C'est simple en fait. Quand on l'approche avec cette pensée de la connaissance du passé, du présent, du futur de Dieu, sachant que sa parole nous dit qu'il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Donc ceux qui refusent de venir à lui, il ne va pas les forcer, mais il sait et ils savent qu'ils ont été choisis parce qu'ils viennent à lui. Réjouissons-nous, si nous sommes venus à lui, c'est qu'il nous avait déjà choisis. Il nous demande de dire autour de nous qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu merveilleux, pour que les autres aient aussi le choix de l'accepter ou de le refuser. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre, que j'ai appelé de ses confins, le peuple hébreu, il l'avait fait traverser la rivière. Vous vous rappelez, Abraham venait de Ur en Chaldée. Il était passé à travers les rivières du Tigre, de l'Euphrate, vers le nord de la terre promise, pour arriver en terre promise. Il dit aussi une chose très importante. Vous avez vu que dans la promesse à Abraham, que ceux qui seront, on va la relire pour pas déformer le texte. Je maudirai celui que tu maudiras, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui se sont irrités contre toi. Ça, c'est une promesse solennelle de Dieu que certains dictateurs Moyen-Orient feraient bien de lire. Lorsqu'on touche à Israël, on touche à la prunelle des yeux de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà touché la prunelle, ça fait mal. Et vaut mieux pas faire mal à Dieu. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. On peut penser dans l'Antiquité aux peuples qui ont attaqué Israël. L'Égypte. L'Égypte a survécu, c'est une nation maintenant sans aucune mesure avec la gloire passée qu'elle a connue. La Syrie. Il existe maintenant la République de la Syrie, mais pas plus la Syrie avec A2SYRIE. Détruit. Récemment, dans l'histoire, le nazisme a essayé de détruire Israël. Où est le régime nazi aujourd'hui? Les prophéties de Dieu, c'est des choses vraies à l'avance, dites à l'avance. L'opposition à l'État d'Israël, elle peut se justifier par la politique. Tout ce que fait Israël n'est pas nécessairement inspiré par Dieu. Mais Dieu promet que si on essaye de détruire Israël, l'Iran va avoir affaire à lui. C'est remarquable de voir que aujourd'hui, quand on regarde les cartes qui sont produites sur les programmes télé, c'est les mêmes que celles qui sont à l'arrière de votre Bible. Ça vous a jamais frappé, ça? Depuis toujours. Jérusalem. Dieu a choisi le peuple juif. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doit soutenir tout ce que dit le peuple juif. Mais gardons-nous d'être sensibles à la propagande anti-Israël. Alors aujourd'hui, il y a un glissement qui se fait. Il est de bon ton de ne pas être antisémite, c'est-à-dire contre les juifs en tant que nation, que race. Mais il est tout à fait acceptable maintenant d'être anti-sioniste. L'antisionisme, c'est un antisémitisme qui se donne belle figure. Alors c'est vrai que parmi le peuple en Israël, il y a beaucoup de non-croyants, il y a beaucoup de païens. Et encore une fois, ce n'est pas pour justifier, mais soyons sensibles, sachant que Dieu a un projet pour son peuple d'Israël. Il ne va pas le laisser tomber. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours ». Alors de peur que Israël se dise « Ouais, c'est vrai, les Juifs se disent « Ouais, on est vraiment un peuple spécial », »« Sois sans crainte, vermisseau de Jacob ». C'est pas un lion, un vermisseau. C'est très humiliant de dire « Tu es qu'un vermisseau, tu es qu'un ver, tu es qu'un lombric » ou d'autres sortes de vers. Vermisseau de Jacob. Jacob, c'était pas un nom glorieux. Jacob, ça voulait dire tricheur, manipulateur, celui qui retenait la cheville de son frère Ésaü pour l'empêcher de sortir en premier d'avoir le droit d'aînesse. Mais Dieu a fait de Jacob Israël, gouverné par Dieu. Et vous vous souvenez qu'il a dû se battre contre l'ange de l'Éternel, une préincarnation de Jésus, jusqu'à ce que Il voulait qu'il le bénisse, cet ange de Dieu, qui était Jésus préincarné, à mon avis. Il a fallu qu'il lui touche la hanche, qui le rende boiteux, pour qu'il se sente béni et qu'il cesse d'être l'homme qui compte sur ses propres ressources, sur ses propres stratagèmes et qui dépend enfin de Dieu. Et donc, ce sont des faibles mortels d'Israël. C'est Dieu qui vient à son secours. Sans Dieu, il n'y a aucune puissance. Il va faire de ce vermisseau un traîneau aigu tout neuf garni de pointes, une machine qui va aplanir les montagnes. Ça fait allusion, ça, aux machines que les cultivateurs utilisaient pour briser les blés, pour faire sortir les grains avant de les envoyer en l'air. Et là, ça va aplanir toutes les difficultés. Et puis, il promet au verset 17 de leur donner ce qui compte le plus quand ils allaient devoir revenir, c'est de l'eau et de l'ombre. La chaleur, la sécheresse des régions qu'ils allaient devoir traverser, c'est quelque chose qui aurait pu leur donner beaucoup de peur, d'angoisse. Dieu leur promet de les soutenir, de pourvoir à leurs besoins. Et puis il termine, on va lire, il va leur rappeler que lui, il est Dieu parce qu'il connaît le futur, et que les idoles, il s'adresse au faux Dieu, au verset 21, « Présentez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos preuves, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous annonce ce qui doit arriver, les événements du début, déclarez-nous ce qu'ils ont été et nous y prêterons attention pour en connaître la suite. Ou bien faites-nous entendre l'avenir, annoncez les événements derniers. » Et nous saurons que vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous ouvrions les yeux et qu'ensemble nous les voyons. Voici, vous êtes moins que rien et votre œuvre est moins connue que le néant. C'est une horreur que de vous choisir. Je l'ai suscité du nord, il est venu de l'Orient, il invoque mon nom, il reparle encore de Cyrus. Il piétine les dirigeants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le reconnaissions et longtemps d'avance. Pour que nous disions c'est juste, nul ne l'annonce, nul ne le fait entendre et personne n'entend vos paroles. Le premier arrivé à Sion dit, voici à Jérusalem, je donne un message de bonheur, un messager de bonheur. Je regarde et il n'y a personne. Personne parmi eux qui donne un avis et qui puisse répondre quelque chose si je l'interroge. Voici qu'ils ne sont tous qu'un rien, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles du vent et du vide. Les faux dieux. Mardi 8 décembre sur France 5, il y aura une émission spéciale à propos de l'anniversaire de Darwin et de la théorie de l'évolution. Et parmi les participants, je pense que ce sera un entretien enregistré d'André Hegen, ce scientifique qui croit à la Bible comme étant inspiré, qui croit à la création divine. Quand il travaillait dans un laboratoire d'État, trouvé le code génétique des bovins, qui a séquencé tout le génome des vaches, important pour les productions de lait, etc. Cet homme était venu l'an dernier nous présenter la théorie de l'évolution et tous ses problèmes face à la Bible et à la création. Là encore, on a l'impression qu'on doit, pour être dans le coup, il faut lire l'horoscope. Il faut croire à la théorie de l'évolution comme blanc, comme noir sur blanc. C'est faux, encore une fois. Et je sais que parmi les chrétiens, beaucoup ont du mal à faire le saut et se dire que la théorie de l'évolution, elle est quand même elle est solide, hein, depuis le temps. Non, il suffit de voir les âneries que les évolutionnistes se disent entre eux. Ils n'ont même pas la même conception de la structure de l'univers. Il y a des histoires absolument farfelues. Ce sont des gens qui sont peut-être capables de résoudre des équations du troisième ou quatrième degré, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sages, qu'ils n'ont la connaissance de Dieu, cette sagesse qui vient d'en haut. Et souvent, parce qu'ils savent résoudre des équations que les autres ne savent pas résoudre, on leur confère cette supériorité intellectuelle, on leur confère la supériorité vis-à-vis de ce que dit la Bible. Et c'est encourageant de voir que des scientifiques de haut vol croient à la théorie, à la réalité de la création par rapport à la théorie de l'évolution. Je vous invite à regarder, j'essaierai de le mettre dans le bulletin dimanche prochain. Vous avez souvent des gens qui viennent frapper à votre porte, des témoins de Jéhovah. Vous avez des jeunes de 18 ans avec cravate et chemise blanche, un accent américain, qui viennent vous voir. Ils ont 18 ans, mais ils ont marqué ancien Joe, Elder Joe, et ils disent qu'en fait, ils sont chrétiens, mais que Jésus n'est pas Dieu. Dans ce passage, il y a l'Éternel, Yahweh, qui dit qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Verset 4 de 41, « Moi l'Éternel qui suis le premier et qui serai encore avec les derniers ou qui suis le dernier aussi. » C'est à rapprocher de l'Apocalypse. C'est important de le noter si vous faites du témoignage dans la rue, si vous parlez à vos voisins ou à ces gens qui viennent gagner des points en faisant des heures de prédication, comme ils appellent. Jésus lui-même a dit « Je suis l'alpha et l'oméga » dans l'Apocalypse, Jean 1, 12. « Je suis le premier, je suis le dernier », c'est répété. Combien est-ce qu'il peut y avoir de premier? Il n'y a qu'un premier, sinon l'autre premier n'est pas premier, il est second. Combien est-ce qu'il y a de dernier, complètement dernier? Est-ce qu'il y a deux derniers? Non, il y en a un qui est derrière l'autre, c'est lui le vrai dernier. Si ici il est dit, le mot qui est utilisé c'est le tétragramme, le mot sacré des Juifs, Yahweh, que les témoins de Jéhovah orthographient ou prononcent Jéhovah, mais on pense que c'était plus Yahweh. Si l'Éternel dit être le premier et le dernier, et que Jésus dit être le premier et le dernier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un piège. Ça veut dire que Jésus est l'Éternel. Souvent, on a l'idée que l'Éternel, Yahweh, c'est le Papa, c'est le Père. Et que Jésus, c'est le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit, on ne sait pas trop, d'accord. Non, la Bible est claire qu'il y a un Dieu en trois personnes. Et que chacune de ces personnes est Yahweh, l'Éternel. Donc, ne laissez aucune personne vous dire que Jésus est moins que Dieu. Ça, c'est le propre de toutes les sectes. Et si Jésus n'est pas Dieu, sa mort sur la croix ne peut pas nous pardonner. Parce que nous sommes infiniment pécheurs, il a fallu un Dieu infini prenant notre punition à notre place pour qu'il puisse satisfaire sa justice et satisfaire son amour.